Bonjour à tous. En écoutant les quelques mesures de rock gothique, c'est ça, que nous a proposé Bénédicte Savoie au début de cette journée, je me disais que décidément les manuscrits médiévaux ne parlaient pas aussi fort et aussi musicalement. Pourtant, le codicologue qui leur prête une oreille attentive peut y trouver des exemples qui sont susceptibles de nourrir nos réflexions communes que nous aurons aujourd'hui. Nous avons compris, effectivement, en écoutant Bénédicte Savoie et Yann Potin, qu'à ce stade de la réflexion, nous avons besoin de réunir des exemples. Chaque situation est spécifique et la comparaison est un grand mode de raison pour nos réflexions. Alors, le manuscrit médiéval n'est guère d'Isère. Il est pourtant deux personnages sur lesquels il aime à s'exprimer, deux personnages qui occupent un rôle essentiel dans sa vie sociale, son possesseur et son copiste. Le possesseur est désigné sous des formes assez standards, si je puis dire, Ferdinandi Regis Sum, liber, nec non et sensia regina, j'appartiens au roi Ferdinand et à la reine Sancia. Et c'est une expression qu'on aime beaucoup chez les amis des livres. Quinti Coriolani Ciprici sum liber et amicorum. J'appartiens à Coriolan et à ses amis. Il s'exprime sur son possesseur. Il s'exprime aussi beaucoup sur son copiste. Je reprendrai le mot de créateur qui a été employé tout à l'heure. Il donne des indications, parfois, sur ce copiste, plus ou moins précises. Tadeus me scripsit in carcere januensium. Tadeus m'a écrit dans les geôles génoises. Permaneat felix semper, personae Ioannis, qui me scripsit, c'est-à-dire bon, des vœux de prospérité pour le copiste qui l'a écrit. Ou alors, dans une veine un peu plus goliardique, des vœux d'une autre nature, plutôt des considérations d'une autre nature, qui me scribebat, multum potare solebat, celui qui m'a écrit avait l'habitude de beaucoup boire. Voilà sur les possesseurs et les copistes. Mais d'autre part, comme le font d'autres objets dont nous avons déjà parlé ce matin, certains manuscrits expriment la crainte d'être volés et la volonté de demeurer entre les mains de leurs propriétaires. Quime furatur, in tribus lignis suspendatur, que celui qui me vole soit pendu au gibet. Ou encore, dans une version nordique, un tantinet plus sauvage, sigre de liavic me possidet, quis me furatur, a tartara crine traatur. J'appartiens à stigre de liavic, que celui qui me vole soit traîné par les cheveux jusqu'en enfer. Alors, parler du vol, ce n'est pas, pour un manuscrit, exprimer une vaine crainte, mais prévoir un danger bien réel, ainsi que l'illustrent deux exemples que je vais vous présenter ici, de manuscrits médiévaux, le Psautier doré de Saint-Gall, à votre gauche, et l'Anthologie palatine, à votre droite. Commençons par le Psautier, le Psaltarium Aureum de Saint-Gall. Manuscrit qui a été copié et enluminé à l'époque carolingienne, plus précisément dans la seconde moitié du IXe siècle, à l'ouest de l'Empire, près de Soissons, ou par des copistes originaires de cette région et qui ont exercé à l'abbaye de Saint-Gall en Suisse. Ce psautier, dont vous voyez la qualité d'exécution, j'ai mis la miniature représentant le roi David sur la gauche, mais ce n'est pas notre sujet, donc je ne vais pas la commenter aujourd'hui. Je voulais plutôt attirer votre attention sur l'inscription qui est sur une des premières pages de ce manuscrit, l'inscription d'une main légèrement postérieure à l'exécution même du manuscrit, et qui est dans lequel le manuscrit s'exprime en ces termes. Nemo me credat omnino furatum. Nemo me credat omnino furatum. Sed felicitaire actenus fuisse reservatum, non dubitet autem iram dei periculosius incurere, si quis me presumat a santi galli finibus spoliando auferre. Alors, au risque de perdre les qualités rythmiques de cette prose rimée, on peut la traduire ainsi. Nemo me credat omnino furatum, que personne ne me croit le moins de monde volé, qu'on ne me croit pas volé. Bien au contraire, j'ai été ici, heureusement, mis à l'abri. Qui oserait m'emporter comme butin hors du territoire de l'abbaye de Saint-Gall n'en doit pas douter, il encourrait alors la redoutable colère divine. Alors qu'observons-nous ? Ici, c'est le psautier lui-même qui affirme qu'il n'a pas été volé. Lui donner la parole, c'est conférer à cette déclaration un poids plus fort que ne pourrait avoir toute affirmation de son détenteur du moment. Que ce soit la victime elle-même qui dise qu'elle n'a pas été lésée, évidemment, c'est un poids rhétorique intéressant. Second élément sur lequel je voulais attirer votre attention, le manuscrit s'exprime en des termes pesés avec soin. Il conviendra donc de ne pas prendre son discours à la légère. Il distingue délibérément deux façons différentes suivant lesquelles un objet peut changer de main. Contre la volonté de son détenteur initial, il est le fruit d'un vol, fur, furis, non me credat furatum, hein, furatum, d'ordre un particulier dont la propriété est saisie par un autre, est volée par un autre particulier. Donc il distingue fur du butin saisi par l'ennemi, les spolia, si quis me presumat a sancti gallis finibus, spoliando auferre. Donc ce premier exemple, il m'invite effectivement à la plus grande attention sur l'examen du vocabulaire employé dans ces expressions du manuscrit. Alors ces quatre lignes ont été tracées il y a plus de 1000 ans, mais l'historien ne saurait cependant affirmer avec certitude que c'est précisément cette inscription qui l'a garantie de toutes les tribulations que connaître d'autres de ses congénères. Il est aujourd'hui encore conservé dans le splendide décor baroque de l'abbaye de Saint-Gall. Alors, deuxième exemple que je voulais prendre, c'est celui de l'anthologie palatine, qui a une vie incomparablement plus mouvementée. L'anthologie palatine, à l'origine, c'est un manuscrit byzantin copié au Xe siècle et qui est conservé pour partie au cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale sous la cote supplément grec 384. Le manuscrit entier, l'autre partie est à Heidelberg, contient une anthologie de textes grecs qui était considérée à la fin du XVIe siècle, enfin, qui était à l'origine conservée à la Bibliothèque palatine d'Heidelberg, qui était considérée à la fin du XVIe comme l'une des plus importantes bibliothèques d'Europe. Donc là, je ne vais pas revenir sur les 3500 épigrammes qui constituaient ce manuscrit à l'origine, manuscrit partagé maintenant. Je veux beaucoup plus qu'on parle ensemble de l'ex-libris que vous voyez ici, collé en tête du volume et qui est aux armes de Bavière, fuselé en bandes d'azur et d'argent. Et le texte, « Sum de bibliotheca quam Heidelberg capta, spolium fecit », J'appartiens à la, comme vous pouvez voir là, donc en français, j'appartiens à la bibliothèque prise à titre de butin, spolium, prise à titre de butin lors de la prise d'Heidelberg par le duc Maximilien de Bavière, qu'il a envoyé comme trophée, trophéa, au pape Grégoire XV. Donc, pour rappeler l'historique de ce manuscrit, en août 1622, au début de la guerre de 30 ans, la Ligue catholique menée par Maximilien de Bavière s'empare d'Heidelberg et le bibliothécaire du pape, Léoné Alacci, organise le transfert à Rome via Munich de 3500 manuscrits et 12 000 livres imprimés. Les livres franchissent les Alpes à dos de mulet, arrivent à la bibliothèque pontificale. Certains sont répartis dans les différents secteurs, mais d'autres constituent des entités qui existent encore, Codex Palatinus Graecus, Latinus et Hebraicus, respectivement. Donc, Alacci, le bibliothécaire, avait divisé en deux volumes le recueil dit de l'anthologie palatine. Dans l'une se trouvait notre anthologie et dans l'autre un ensemble de poésies pseudo-anacréontiques. Ce manuscrit, l'autre partie du manuscrit, elle est aujourd'hui conservée à Heidelberg. C'est-à-dire qu'en fait, on nous dit que ça a été transporté à la Vaticane, mais il y en a une partie à Paris et une partie à Heidelberg aujourd'hui. Donc ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est que ce manuscrit, il raconte une partie de son histoire et pas toute son histoire. De toute façon, l'ex libris, il date de 1622. Il dit bien qu'il était à la Palatine, mais sans dire comment il y est entré. Comment est-ce qu'il est arrivé de Constantinople et comment il a été acquis en Italie entre 1500 et 1525 par un Anglais, probablement par un Anglais, l'entourage de Thomas More. Il ne précise pas non plus comment est-ce qu'il est arrivé à Paris. Alors comment est-ce qu'il est arrivé à Paris ? 1797, application du traité de Tolentino, 500 manuscrits sont remis par le pape à la France, et parmi eux, 26 manuscrits grecs, dont celui-ci. 1815, pour reprendre toutes ces étapes qu'on a vues pendant les cours de Bénédicte Savoie tout au long de l'année, 1815, les envoyés prussiens demandent le retour, non pas à Rome, mais en Allemagne, en l'occurrence à Heidelberg. La seule chose, c'est qu'ils ne s'aperçoivent pas que le volume a été divisé en deux, donc il y a bien une partie qui retourne à Heidelberg et l'autre qui reste à Paris. Donc, ça pour attirer l'attention sur les itinéraires complexes. Le discours du manuscrit, qui est ici sur l'Ex Libris gravé, a pour seul objet de mettre en avant la part prise par Maximilien de Bavière dans l'arrivée du manuscrit à Rome, de souligner que Maximilien avait été investi de la dignité électorale par l'empereur. Il est également très précis sur les circonstances dans lesquelles il a quitté Heidelberg. Il a été considéré comme un butin de guerre, spolium. Il emploie ce terme de façon extrêmement précise. Le manuscrit apparaît par là, fort au fait des débats de l'époque, parmi ceux des débats qu'avaient ceux qui conduisaient la réflexion sur le jus gentium, le droit des gens, qui régule les rapports entre puissances souveraines. Je pense qu'on entendra parler un peu plus tard de Grotius, qui rédigeait la première moitié du XVIIe, le De Iure Praede, l'ouvrage dans lequel il affirme « est juste tout butin qui provient d'une guerre juste ». Donc le manuscrit est aussi au courant des débats juridiques. Alors pour conclure, je dirais volontiers que pour les sujets qui nous réunissent aujourd'hui, ces deux manuscrits, le Psalterium Aureum de Saint-Gall et l'Anthologie Palatine, illustrent l'intérêt qu'il y a à soumettre le discours des objets à un examen attentif. Examen attentif du vocabulaire qu'ils emploient, fur, spolium, spolium, trophéum. Examen de ce vocabulaire qui doit s'inscrire dans une étude comparatiste qui explore les différentes aires culturelles et qui s'applique sur la longue durée en étudiant les termes employés lors des déplacements d'œuvres d'art. L'exemple type qu'on a vu un certain nombre de fois déjà, est-ce que furti napoléonici correspond bien à conquêtes impériales ? Alors, examen attentif du vocabulaire, mais également examen attentif des circonstances dans lesquelles les objets s'expriment, ce qui revient bien souvent à chercher à identifier qui les fait parler. Manifestement, c'est Maximilien qui s'exprime à travers le manuscrit de Saint-Gall plutôt qu'il le fait parler, et c'est à ce titre qu'on peut parler de manuscrit ventriloque. Donc, reconnaître... Donc, reconnaissons le discours de ces manuscrits comme une source pour nos travaux et gardons bien présent à l'esprit que nous les utiliserons d'autant mieux si nous leur appliquons l'ensemble des moyens mis à notre disposition par les méthodes éprouvées de la critique des sources et en les soumettant ensemble au regard croisé de nos différentes disciplines. Je vous remercie.